Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Karen El-Kaïm et je suis ravie de vous accueillir ce matin avec trois écrivains que vous connaissez, que vous avez lus et choisis pour la plupart d'entre vous et qui vont évoquer ce matin le rôle politique du roman, entre autres parce qu'on va parler de plein de choses. En tout cas, je vais d'abord vous les présenter en quelques mots. Donc, Cécile de Moulin, le jour en 1968 à Grenoble. Elle fait des études de santé publique, d'acupuncture et d'économie sociale et solidaire. Pendant 10 décennies, elle va travailler dans l'humanitaire, que ce soit pour Médecins du Monde, Care, Save the Children ou l'UNICEF. Une expérience sur le terrain qu'elle transforme en roman, Bazungu, aux éditions Robert Laffont, qui retrace deux destinées dans l'ex-Zaïr où la guerre fait rage en 1996. Il y a un gamin désœuvré qui tente de rallier le Rwanda et de retrouver sa mère, ainsi que Claudine, qui n'est peut-être pas sans rappeler Cécile en question, et qui est une humanitaire parfois désœuvrée, qui désire venir en aide aux enfants, malgré toutes les embûches auxquelles elle est confrontée. À mes côtés également, Mathilde Chapuis, qui est née à Belfort en 1987. Après des études de littérature à Strasbourg et à Naples, elle décide de voyager dans plusieurs pays, dont la Grèce et le Liban. Elle pose finalement ses valises à Istanbul, où elle travaille à l'Institut français. Elle vit désormais à Bruxelles, où elle enseigne le français à des primos arrivants. De toutes ces expériences est né son premier roman « Nafar » aux éditions Liana Levy, dans lequel une femme narre le parcours du combattant d'un homme, un homme qu'elle aime, un Syrien, qui se bat pour avoir droit à une autre vie ailleurs. Enfin, à mes côtés, Mathieu Palin, qui naît en 1988 à Ris-Orangis. Il plonge dans le milieu du journalisme en faisant un stage à Libération. Mordu, il va découvrir d'autres réalités, d'autres terrains, en travaillant pour les revues 21 ou 6 mois. Sale gosse, son premier roman aux éditions de l'Iconoclaste, est le fruit d'un hommage à son père qui travaillait à la PJJ, où lui-même a fait une immersion. Cette section dont on va parler, qui s'occupe des enfants abîmés, dont Wilfried, le héros de son roman, qui fait partie de ses parcours cabossés. Après un passage dans une famille d'accueil et à un club de foot, il laisse exploser sa colère. Et ses galères vont finalement le mener à la délinquance. Mais quelques anges désirent le sauver. Bonjour à vous trois et merci d'être avec nous ce matin. Mathilde, en quoi est-ce que vous diriez que la littérature vous a guidé, vous a orienté, peut-être à l'instar d'Ulysse qui vous a mené dans un voyage intérieur ? Ah bah, dès le matin, comme ça. Mathilde, il y a un micro.
Oui, je sais, mais j'hésite à le prendre.
Vous pouvez répondre en chantant.
Est-ce que tu peux reposer la question ?
Bien sûr. En quoi est-ce que la littérature vous a guidé, vous a orienté vers un voyage intérieur ?
Désolée, je reste muette. Non, c'est entrer tout de suite sur la question de la littérature et en quoi ça me guide intérieurement, c'est tout de suite aller me plonger dans des choses assez personnelles et intimes. Forcément, pourquoi on entre en littérature d'abord par la lecture, puis par l'écriture, c'est quand même quelque chose de mystérieux et intime. Mais bon. En tout cas, c'est quelque chose qui me guide et m'habite depuis très longtemps. Et dans ma famille, on ne lisait pas. Et il y avait de la part de mon père qui n'a pas eu la possibilité d'aller faire des études, une ambition très forte pour ses filles. Il fallait qu'elles lisent justement et qu'elles... qu'elles abordent le monde par ce biais. Et bon, je crois que j'ai pas eu le choix, mais j'ai adhéré fortement à ce qui m'a été presque imposé. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour le moment.
Mathilde nous parle d'adhérer au monde. Cécile, en quoi est-ce que vous diriez que les livres ont le pouvoir de changer notre regard sur le monde, et en quoi est-ce que ça a été, normalement ils sont allumés, en quoi est-ce que ça a été en tout cas valable pour vous?
Pour moi, les livres, rentrer dans un livre, dans un roman, c'est vraiment rentrer en relation avec des gens, avec les autres. Et j'ai toujours adoré ça. Et comme beaucoup de lecteurs, quand je ferme un roman qui m'a plu, je suis triste parce que je les quitte. Pour moi, c'est en ça que le roman et la littérature nous permettent de se connecter au reste du monde. Et parfois un monde très lointain, parfois un monde avec lequel on ne pourrait avoir aucune connexion, soit à cause de l'éloignement géographique ou même de l'éloignement temporel. Mais c'est vraiment une connexion de cœur à cœur et d'âme à âme. Et c'est ça qui fait que le roman tisse sa toile comme ça, à travers le temps, l'espace, et toujours d'individu, d'être humain à être humain.
D'être humain, c'est ce qu'on retrouve également dans votre travail, Mathieu. Si le journalisme a le pouvoir de révéler une certaine réalité du monde, en quoi est-ce que la littérature, que ce soit en tant que lecteur ou qu'auteur, vous a permis de plonger dans une autre réalité, ou en tout cas de la montrer sous un jour différent?
Moi, j'ai voulu devenir journaliste un peu à cause de quelqu'un que vous connaissez probablement, qui s'appelle Florence Aubenas, qui avait sorti qui est devenue célèbre un peu malgré elle, à cause de ce qui lui est arrivé en Irak en 2003. Elle a été libérée en 2005. Et à cette époque-là, moi, j'étais au lycée. J'avais 16 ans. Et je lisais pas du tout de livres. J'étais un peu comme le père de Mathilde. Et j'y suis venu par ça, en fait, par Florence Aubenas. Elle a sorti un livre après qui s'appelle La Méprise, qui était aux éditions du Seuil, je crois, qui n'était pas du tout sur sa captivité, mais qui était sur son enquête journalistique sur l'affaire Doutreau, qui est une autre affaire célèbre que vous connaissez probablement. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, j'ai eu un déclic, comme si on m'avait prouvé par A plus B qu'il était possible de raconter le monde dans lequel je vivais, et de me faire vivre des personnages réels, des personnages qui avaient fait la une de l'actualité et qui, quand on les prenait réellement sous leurs différentes facettes, étaient vivants, quoi. Et ça m'a intéressé parce que, du coup, c'était un journalisme différent de ce que je connaissais en tant que profane, qui m'a demandé à l'époque qui je connaissais comme journaliste. Probablement, j'aurais répondu David Pujadas, quoi. Et là, d'un coup, j'avais une espèce d'illumination de quelque chose qui me touchait directement. Et donc, j'ai absolument pas la prétention d'avoir ni l'expérience ni le talent de Florence Aubenas, mais depuis ce jour-là, j'essaye un peu de faire ce qu'elle fait, elle. Et donc, ce livre qui, pour le coup, elle fait pas de roman. Ce livre, c'est un roman. Mais il emprunte beaucoup à cette idée de base qui est le reportage, d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens, de prendre des notes et petit à petit d'essayer de raconter le réel, même si moi j'ai un peu triché, je suis un peu servi de la fiction pour faire des raccourcis, mais disons que l'ambition c'est celle-là, quoi. Et donc la littérature, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais moi, dans ce que j'essaye de faire, ça se rapproche plutôt de ce type de... Il y en a qui disent journalisme littéraire ou reportage, c'est du reportage en fait, c'est ce qui se faisait déjà il y a un siècle, quoi.
Mathieu nous parle de ce qui fait l'actualité. Alors la réalité migratoire est rarement en une, mais néanmoins on en parle évidemment dans les médias. On peut la retranscrire de la sorte, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous avez voulu vous emparer de ce sujet, de cette réalité, et l'imaginer avec vos propres mots?
Oui. Je suis méfiante maintenant. Oui, en fait, ça a un lien avec ce que j'ai vécu, puisque comme vous l'avez dit, j'ai habité à Istanbul et j'ai rencontré des Syriens qui cherchaient à traverser la frontière entre la Turquie et la Grèce, et en particulier un avec qui j'ai vécu. Donc si j'ai été amenée à écrire ce livre, Nafar, c'est parce que j'ai été confrontée à une situation qui me semblait, enfin, qui était dramatique et injuste. Et je crois que l'écriture naît vraiment à ce moment-là de ce sentiment d'injustice et qu'il faut dénoncer ou en tout cas mettre en œuvre toutes les ressources dont je disposais. Donc c'était des ressources littéraires, artistiques, pour dire ce que j'observais et pour essayer d'amener le lecteur à déplacer son point de vue, enfin un lecteur potentiel, puisque je ne savais pas si le livre allait être publié un jour, mais en tout cas, travailler sur l'image que moi j'avais auparavant de ce que c'était que la migration et que l'exil de ces Syriens notamment, travailler sur ça pour essayer de transformer, de modifier le point de vue sur cette question.
Cécile, là tout de suite, Mathieu nous parlait de Florence Aubenas, vous l'évoquez également dans les pages de votre roman, parce qu'elle fait partie de ces journalistes qui sont venus récolter les témoignages au nord du Nord Kivu, alors que dans le village, les gens avaient peur de parler. Pourquoi est-ce qu'un roman comme le vôtre peut justement leur donner une voix et donner une voix différemment qu'à travers un journaliste ou un article?
Je suppose que la forme du roman en fait permet d'approcher de plus près des individus. Et Florence Aubenas fait partie des rares journalistes qui sont venus dans ces événements-là. Ils n'étaient vraiment pas nombreux. Et moi aussi, j'ai une admiration infinie pour elle parce qu'elle y était et elle est allée dans des endroits vraiment dangereux pour parler d'une situation dont on n'avait pas tellement envie, dont la terre entière n'avait pas tellement envie d'entendre parler, en fait. Mais l'approche à travers le roman permet de focaliser plus sur un individu, notamment dans le cas présent, un petit garçon réfugié, et d'embarquer, je pense, le lecteur avec ses tripes et son affect de manière très forte, et sache... C'est presque une manière différente de vivre en empathie l'histoire d'un autre qui est tellement différent et tellement loin de soi. Et dans Bazungu, il y a deux voix. Il y a la voix de Claudine qui est presque un petit peu journalistique. D'ailleurs, on me l'a souvent dit qu'elle parle avec un discours assez... un peu plus de distance avec les événements et un peu d'analyse, et puis elle est étrangère, donc elle amène un autre regard, elle amène d'autres éléments, des dates, des noms de lieux, etc. Alors que le roman permet de perdre cette forme-là et de créer un personnage, de donner substance à un personnage qui est purement dans l'affect et dans son individualité, presque... La réalité de son contexte importe peu, et c'est en ça que ça s'éloigne du journalisme, puisque ce petit garçon, si on ne lisait que son histoire, c'est-à-dire si on lisait qu'un chapitre sur deux, on saurait pas dans quel pays ça se passe, par exemple, ni à quelle époque. Et c'est pas important, c'est pas grave, ça ne fait rien. Donc c'est la forme romanesque m'a permis ça pour aborder ce sujet de la migration et des aspects qui sont presque universels dans le sens où ils peuvent parler à tout le monde. Voilà.
Mathieu, le journalisme exige généralement qu'on passe d'un sujet à l'autre, et c'est vrai qu'à travers le travail de Florence Aubenas qui fait des immersions, je pense notamment les premières semaines du confinement, elle s'est immergée, elle a vécu au sein d'un EHPAD, et vous avez réalisé une immersion de 6 mois à la PJJ d'Auxerre. D'accord.
Je faisais l'erreur, on m'a repris quand je suis
arrivée. D'accord. Vous êtes belge aussi.
Oui, c'est ça.
Comment est-ce que vous diriez que vous avez transformé toutes ces tranches de vie auxquelles vous avez été confrontée, toutes ces tranches de vie que vous avez véritablement absorbées pour les transformer en personnages de roman?
Ben, En fait, je me suis retrouvé un peu piégé par le procédé justement de l'immersion parce que au début, comme je travaillais dans un journal que vous connaissez peut-être qui s'appelle la Revue 21, qui est un peu particulier parce que c'est plus vraiment un journal, c'est pas vraiment un livre non plus, ce sont des articles assez longs. Tout simplement pour écrire des articles longs, il faut passer du temps sur le terrain, donc j'avais pris l'habitude de rester en général un mois. Je trouvais que c'était la bonne manière d'aborder un sujet et d'avoir le temps finalement de se perdre un peu et de faire des erreurs. Et puis finalement, on revient et on rencontre des gens. On n'est pas immédiatement dans l'efficacité comme quand on travaille pour un quotidien, par exemple, où on a 3 heures pour couvrir un sujet. Il ne faut pas qu'on se rate. On caste déjà un peu les gens vers qui on va tendre le micro. Et dans 21, ce qui était bien, c'est que je n'avais pas à faire ça. Sauf que, en l'occurrence, sur ce sujet de la délinquance juvénile et de comment en sortir, je savais que la PJJ m'intéressait. Donc j'avais dit la même chose, j'avais dit un mois, laissez-moi un mois et puis ça me suffira. Et en fait, je me suis laissé, sans rentrer dans les détails, au bout d'un mois, j'étais un peu frustré parce que j'avais rencontré plein de gamins, plein d'avocats, d'éducateurs et tout, mais j'avais l'impression qu'on m'avait... donner à voir 15% de la matière que j'aurais pu glaner si j'étais resté un petit peu plus longtemps. Donc finalement, j'ai rien dit à personne. J'ai dit, tant qu'on ne me vire pas, je reste. Et je suis resté un mois de plus, et encore un mois de plus, et encore un mois de plus. Et puis finalement, au bout de 6 mois, j'avais une matière énorme. Et j'avais plus du tout envie d'écrire d'articles, en fait. Je me suis rendu compte que les personnages qui n'étaient pas des personnages, qui étaient des gens de chair que j'avais sous les yeux tous les jours, avaient pris trop de place. Ils étaient vivants, je veux dire, dans mes notes aussi. Et donc, je me suis dit, je vais jamais réussir à en faire un article parce que j'ai trop à dire sur cette psychologue-là. Je pourrais tenir 20 pages sur ce gamin-là, cette gamine, qui, la pauvre, qui s'est fait abandonner 3 fois, qui a 14 ans, qui comprend ce qui est en train de lui arriver. Il y avait tout un tas de personnages comme ça et je me suis dit la meilleure des manières finalement c'est de tenter quelque chose de nouveau. Donc c'est comme ça que je suis arrivé sur le roman, mais c'était pas une volonté première en tout cas. C'est un peu l'immersion qui m'a conduit vers quelque chose d'autre. J'aurais pu faire un livre de journaliste avec là pour le coup du temps et de l'espace, mais il y avait plusieurs contraintes, notamment celle du fait que ce soit des mineurs délinquants. Il y a quelque chose qui est très bien en France qui s'appelle le droit à l'oubli. Les conneries que vous faites à 15 ans ne sont pas censées vous suivre toute votre vie. Donc ça me posait un problème de raconter aussi ces gamins sans les protéger, de parler de leurs parents sans les protéger non plus. Donc comme il fallait de toute manière que j'anonymise et les noms et les situations, parce que si vous changez un prénom, mais que vous parlez de la poste qui a été braquée à Migennes, à 5 km d'Auxerre, tout le monde sait quel gamin est concerné, donc ça posait aussi problème. Donc petit à petit, comme ça, en réfléchissant à une solution pour faire vivre toutes ces notes et toutes ces interviews, le roman est arrivé comme une option, quoi.
Mathilde, vous racontiez que vous avez donc vécu en Turquie, que ce soit là-bas ou lors de votre expérience aujourd'hui avec les primo-arrivants, vous avez rencontré énormément d'exilés, énormément de gens qui aspiraient à une autre vie. J'imagine qu'à l'instar de votre héroïne, vous êtes, vous vous sentez peut-être encore actuellement souvent impuissante. Pourquoi est-ce que, comme vous l'écrivez dans le livre, écrire est votre seul pouvoir pour donner une réponse à ce qui se passe de l'autre côté de la cloison ou de la mer ?
Oui, vous avez raison de dire que j'ai rencontré beaucoup d'exilés, mais j'en ai rencontré surtout un avec qui j'ai vécu. Donc c'est surtout... Donc le roman est né de cette relation intime et de cette relation intime qui était précieuse. Et c'est ça qui domine le livre et qui le mène, qui lui donne son élan. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de livre nafard s'il n'y a pas un lien intime entre un Syrien et une Française et leur rencontre et sa volonté à elle d'essayer de percer le mystère qui est le sien. Et son mystère, c'est quel est ce moment de rupture, de chaos qui correspond à l'arrachement à son pays et au fait d'appartenir encore à aucun autre. En fait. Et donc la littérature ici, disons que je ne suis pas militante, c'est vrai, vous l'avez dit, j'ai enseigné à Bruxelles auprès de Primo Arrivant, c'est plus le cas aujourd'hui, mais j'ai un peu du mal à me positionner par rapport à ce livre, à quel point je suis engagée politiquement, ou quelle militante je suis en écrivant ce livre. Je sais en tout cas, pour moi, la littérature, c'est quelque chose qui modifie pendant un temps plus ou moins long le regard de celui qui est en train de le lire. Non, ça habite la personne pendant 2 heures, 3 heures, 2 jours, peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois. En tout cas, il se passe quelque chose. Et même si ça n'a pas l'effet d'une action militante, de travailler dans une association, de défendre les droits de manière très, très concrète des demandeurs d'asile ou des migrants sur notre territoire, il y a quand même ce fait-là qui est un travail de fond. Comment je vais faire que le lecteur se sente concerné. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris un homme. Et c'est le trajet d'un homme, même si cet homme-là, il est anonyme, même si cet homme-là, il est à la fois tous les autres. Et le roman raconte la traversée, la tentative de traversée d'une frontière. Il y avait cette volonté d'entrer dans les détails pour que le lecteur se sente vraiment concerné en fait, par ça. Qu'il entre avec le nafar dans cette forêt dans laquelle il doit se cacher, puis qu'il entre dans le fleuve qu'il doit traverser pour passer du côté grec, qui se sente aussi se noyer, que toutes ces sensations physiques et que toutes ces émotions, la peur, l'espoir à un moment donné, et puis le désespoir, habite aussi le lecteur de manière provisoire. Donc c'est ça la littérature.
Cécile, ce que vient de dire Mathilde fait évidemment écho à votre roman. J'imagine qu'à l'instar de votre héroïne, quand vous étiez vous-même sur le terrain pendant toutes ces années en tant qu'humanitaire, vous avez été confrontée à l'horreur, à l'impuissance également. Est-ce que vous diriez que ce roman est aussi né d'une colère, que ce soit vis-à-vis de l'indifférence des politiques ou des gens que nous sommes également ici ?
C'est pas né d'une colère à l'égard des gens que nous sommes, parce que je sais que les gens que nous sommes, d'abord ils savaient pas ce qui se passait, et je sais que les gens que nous sommes ont envie de tendre la main. Mais par contre, c'est né d'une grande frustration et d'une colère, oui, du silence qui a entouré toute cette histoire, toute cette période. Et le petit garçon, il a vécu des choses aussi comme le nafar. Il s'est caché dans la forêt, il a fui des militaires qui le poursuivaient. Il a eu faim, peur, froid, il a eu envie de revoir sa mère. Et tout ça, je pense que n'importe lequel d'entre nous peut raisonner avec ça, peut être touché par ça. Si simplement, exactement comme tu viens de le dire, on l'emmène dans cet endroit et on lui fait sentir ces émotions qui sont... qui sont intolérables pour nous. On ne voudrait pas qu'un de nos enfants doive traverser ça. C'est intolérable, c'est insupportable. Et à l'époque de ces faits, il en a été très peu parlé. Et puis nous, qui travaillons spécifiquement pour les enfants dits non accompagnés, on les appelle les MNA maintenant, c'est le jargon technique, c'est juste des enfants qui sont tout seuls. Et on les cherchait dans des conditions absolument effroyables. On avait l'impression qu'on travaillait dans le silence et que tout le monde s'était voilé la face et mis des lunettes noires pour ne pas voir ça. Et ça, c'était très dur. Et ça, c'est resté avec moi. Et je sais, avec beaucoup de mes collègues, parce que j'ai des amis de longue date qui travaillaient avec moi à cette époque-là, avec qui on a gardé un lien très fort. Et quand on se retrouve, on reparle toujours de cette période-là. Pourtant, on a tous travaillé dans un tas d'autres événements, d'autres guerres, d'autres moments terribles aussi. Mais celui-ci, il avait cette charge particulière parce que tout se passait au fin fond d'une forêt, à un endroit où personne ne voulait trop regarder. Et on a tous gardé ça en nous, on l'a ramené et c'est resté là longtemps. Et pour moi, j'ai eu cette chance de pouvoir me mettre à mon clavier et puis tout sortir, tout sortir de cette manière. Et ça m'a beaucoup aidée. Et j'avais le besoin de le faire parce qu'il fallait le dire. Il fallait le dire. Et comme c'était, on parle d'enfants, bah oui, ils ne pouvaient pas le dire. D'abord, beaucoup d'entre eux sont morts. Et puis, les survivants, je ne crois pas qu'ils aient les moyens de dire, de raconter au monde ce qu'on leur a laissé subir en fermant les yeux. Et ça, c'était... Ben moi, j'étais à cette place, il fallait que je le fasse.
Même si le roman n'est pas politique en soi, est-ce que vous diriez néanmoins qu'il est traversé par la politique ?
Ben, je pense que tout roman est politique, en fait. Tout récit est politique, parce que le point de vue qu'on adopte est politique. Le fait de parler d'événements qu'on a voulu occulter, que certaines forces veulent encore occulter aujourd'hui, c'est politique, qu'on le veuille ou non. Et mon objectif n'était pas politique, mais malgré tout, il y a une charge politique derrière qui existe. Et donc, c'est bien de ne pas l'ignorer. Je ne me sens pas du tout équipée, en fait, ni intellectuellement, ni politiquement, ni d'un point de vue militant pour gérer cette charge politique. Mais donc, ça veut dire qu'elle peut m'échapper, ça veut dire que ça me fait un peu peur, mais c'est là, ça existe.
Je vous en prie. J'ai lu, je sais plus dans quoi, une phrase de Jean Hatzfeld, donc c'est un peu la région qui est concernée, et il dit « Je n'écris pas pour une cause, je mène les lecteurs jusqu'à eux », donc eux, je pense en l'occurrence les Tutsis, les victimes du génocide au Rwanda, et ça m'intéresse cette phrase, mais ça me questionne. Est-ce que moi, pour ma part, est-ce que j'écris pour une cause ? Bon, je suis certaine d'essayer d'amener le lecteur jusqu'à eux, ou jusqu'à lui, le Nafar, donc jusqu'à eux, ceux qui sont amenés à traverser une frontière clandestinement. Est-ce que, pour autant, je n'écris pas pour une cause ? En tout cas, je trouve que la phrase, même si elle a un côté un peu formule, comme ça, d'écrivain, est intéressante quand même. L'idée de... Oui, allez, venez voir comment ça se passe. Moi, je ne me positionne pas trop. Enfin, je me positionne, mais c'est à vous de voir aussi la manière dont vous pouvez vous positionner, vous, par rapport à ce que je vous donne à voir. Et donc, bon, c'est intéressant.
C'est quelque chose qu'on retrouve également dans votre roman, Mathieu, puisqu'à travers cette histoire au sein de la PJJ, qui est donc la protection judiciaire de la jeunesse, qu'est-ce que vous révélez quant aux défaillances de notre société ?
Beaucoup de choses. Non, en fait, il y a quelque chose, en tant que journaliste, qui est assez frustrant. C'est quand on a envie de défendre une cause. Et en général, ce n'est pas bon signe. C'est qu'on va utiliser des moyens qui vont nous mettre mal à l'aise pour défendre un propos. Et moi, mon problème en tant que journaliste, c'était que, ayant grandi dans un quartier, dans une banlieue extrêmement stigmatisée, tout à l'heure, vous avez cité Ris-Orangis, peut-être que vous ne connaissez pas Ris-Orangis, mais vous entendez peut-être parler de Grigny, de Corbeil-Essonnes, d'Evry, de ces noms de quartiers qui sont souvent stigmatisés médiatiquement et politiquement. À chaque nouvelle élection présidentielle, à chaque nouveau ministre de l'Intérieur, on a un grand discours sur... Alors aujourd'hui, on parle d'ensauvagement. Avant, on parlait des voyous. Il y a eu les sauvageons aussi, je crois. Et bref, moi, en 2005, je suis lycéen, j'ai un hélicoptère qui tourne au-dessus de ma tête parce qu'il y a ce qu'on appelle les émeutes de banlieue. Et forcément, en grandissant dans cet environnement-là, je vois à la télévision un récit du monde dans lequel je grandis, dans le monde dans lequel je vis, qui ne correspond pas à la réalité. Je vois des journalistes en gilet pare-balles qui font des duplex devant des poubelles en flammes. Et ça me gêne parce que ça parle du quartier dans lequel moi je joue au foot, dans lequel ma petite sœur va à l'école. Et ça me gêne parce que ça diffuse au public, qui, c'est vous, c'est mes grands-parents, une information qui est extrêmement orientée et qui, de fait, est fausse. Donc moi, devenu journaliste des années plus tard, j'ai cette espèce de naïveté de me dire je vais rétablir la vérité. Je vais me prendre ce sujet à bras-le-corps et je vais j'allais dire éduquer le public, mais vous voyez l'idée. Et en fait, c'est pas possible de faire ça, parce que vous allez forcément, vous, avec un propos que vous allez essayer de trouver, faire exactement les mêmes biais que celui qui est avec son gilet pare-balles devant une poubelle en flammes. C'est-à-dire que vous allez vouloir coller au terrain votre perception de la réalité. Et pour éviter ça, je pense que j'ai essayé pendant des années en tant que journaliste d'aller chercher des histoires dans ces quartiers-là. Que ce soit, j'ai suivi pendant une année une classe de troisième à Pantin. J'ai suivi tout un tas d'histoires avec beaucoup de vie que je pouvais raconter en tant que journaliste. Et en fait, je repartais tout le temps sur une nouvelle histoire après, comme si j'arrivais pas vraiment à raconter ce que je voulais raconter depuis aussi longtemps. Et finalement, quand on parle aujourd'hui, là, que ce soit pour Nafar ou pour Wilfried, c'est des sujets qui sont souvent stigmatisés parce qu'on parle de personnes qui ne peuvent pas se défendre. C'est-à-dire qu'on dit les migrants ou les délinquants, les racailles. C'est une population qui est nébuleuse, qui n'est pas incarnée et qui, du coup, peut charrier un nombre de clichés incalculables. Et c'est sans fin, puisque ces gens-là, comme ils ne sont pas nommés, ne pourront jamais se défendre. Donc, j'ai été très long pour dire ça, mais j'en suis arrivé à l'idée de raconter, comme tu le fais, Mathilde, une histoire d'une personne qui va raconter son parcours et qui va me permettre, moi, d'entrer dans la nuance, dans la complexité. Parce que finalement, je pense que c'est la seule manière, en racontant une histoire, de raconter une histoire un petit peu plus grande que celle du héros. Donc, bon voilà, j'ai été un peu long, mais...
Mathilde, à travers cette histoire, effectivement, ce visage que vous donnez dans ce roman, votre héros a un rêve qu'ont tous les migrants, a priori, à savoir celui de rejoindre les portes de l'Europe, qui est souvent présentée comme un Eldorado. Qu'est-ce qui vous indigne, vous, par rapport à la politique migratoire de l'Europe ?
Je ne pense pas déjà que tous les migrants ont un rêve, celui d'aller en Europe. Enfin, peut-être déjà quelques mots sur le terme migrant, avant de...
On va en parler sur une question que là-dessus, justement, par rapport au titre, évidemment.
Très bien. La question, c'est ce qui me révolte dans les mesures actuelles sur...
Parce que, justement, il y a ce décalage aussi dans le roman entre lui qui a ce rêve d'un ailleurs, qui est l'Europe parce que ces portes-là sont les plus proches. Il y en a effectivement qui veulent passer par là pour aller encore ailleurs. Et puis ce décalage avec l'héroïne qui, elle, connaît mieux la réalité.
Oui, bon, ce qui me révolte, évidemment, c'est déjà que ces frontières soient fermées, que ces personnes soient considérées comme des citoyens de seconde zone, que leur vécu ne soit jamais pris en compte, ou quand il est pris en compte, c'est pour juger si oui ou non ils ont le droit de rester sur le sol européen. C'est les choses les plus vives, les plus exposées. Après, il y a cette dégradation intime qui n'est pas forcément visible. C'est-à-dire, bon, voilà, on renvoie des gens en Turquie ou chez eux, puisque là, il est question de la frontière entre la Turquie et la Grèce. Hein. Parfois même, on les tue, ou on les maltraite, on les violente, ou on les laisse... j'allais dire moisir, le mot est très violent, mais c'est presque ça, dans des camps en Grèce, on connaît l'histoire de Moria, qui est à Lesbos, vraiment ce camp où les gens restent dans des conditions effroyables pendant des mois et des mois. Mais moi, ce que j'ai observé aussi, c'est, bon, par exemple, la personne est arrivée, elle a obtenu des papiers, mais ensuite, qu'est-ce qu'elle devient sur notre sol, en fait, quand son sort n'est pas vraiment pris en compte, elle est toujours une personne de catégorie inférieure, une minorité, mais même les gens de bonne volonté, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la condescendance que j'ai vraiment essayé de travailler dans mon récit. C'est pour ça que j'utilise la seconde personne du singulier, c'est pour ça que je m'adresse à lui, c'est pour ça que le lien entre la narratrice et le personnage est si important. C'est parce qu'il y a cette manière de regarder le migrant ou le réfugié comme ça reste l'autre, en fait, même quand on veut l'aider. Et du coup, cet autre-là, je voulais éviter en fait, qu'il y ait ce surplomb sur lui, mais que ce soit vraiment le lien d'affinité, de, ouais, d'intimité, d'empathie, mais vraiment d'empathie au sens résonance, pas au sens de « je te regarde de haut d'où je suis », mais vraiment dans le sens ce que tu vis, ce que je vis, c'est maintenant la même chose, c'est lié.
Mathilde évoquait à l'instant les clichés, les petites cases dans lesquelles on met les gens. Il y en a aussi énormément concernant les situations que vous décrivez, puisque l'un des personnages soutient à un moment donné que c'est au Zaïre qu'il a appris le sens du mot « fatalité ». C'est vrai que c'est une étiquette qu'on colle souvent. Comment d'abord ce terme de fatalité est ressenti dans cette culture? Et est-ce que vous pensez que des pays comme celui-là ont effectivement longtemps ou sont encore prisonniers de cet engrenage politique et social?
Je sais pas. Je me sens pas du tout en mesure de... Je sais pas si quelqu'un peut apporter la réponse à cette question. Moi, j'étais dans ce pays brièvement. Hein, j'étais dans cette région géographique pendant une durée qui est à peu près 3 ans, 3 ans et demi. Et c'était il y a presque 30 ans. Donc, je ne suis pas, dans une position qui me permet de parler au nom de ce pays ou de ses habitants. Tout ce que je peux dire, c'est que pour moi, qui était à l'époque, j'avais pas 30 ans, j'étais ce qu'on appelle une jeune femme idéaliste. Ça aussi, c'est un petit peu un cliché, mais voilà, je l'assume. Le seul moyen d'échapper à la fatalité, c'était l'action. Et c'est toujours le cas, partout, où qu'on soit, et quelle que soit la situation dans laquelle on est. Et c'est le fait de pouvoir être en action et de pouvoir agir qui a fait que moi, j'ai pu rester. Sinon, si j'avais été une simple spectatrice de ce qui se passait, je pense que j'aurais pas eu la ressource pour rester. Je pense que ça m'aurait peut-être détruite, mentalement, psychologiquement. Mais le fait d'être en action, et en action avec les gens, du coup, c'est pas le moment de se poser la question. C'est pas le moment. La question se pose pas. Et en fait, non, je crois pas en la fatalité, ni pour un pays, ni pour ses habitants. Et si on parle de la République démocratique du Congo, donc de l'ex-Zaïre, c'est un pays, notamment dans l'Est, le Kivu, qui est frontalier avec le Rwanda, la Tanzanie. C'est un pays qui... Une zone du monde où les souffrances se répètent, se perdurent, où il y a... On ferme les yeux, on tourne la tête de manière chronique depuis des décennies. Il y a les ravages du colonialisme, les ravages de... le fait que c'est une zone du monde qui a de très riches sous-sols. Donc ça attise des convoitises, ça attise beaucoup de choses, je pense, qui sont en cause dans ce qui continue de se passer là-bas. Et pour autant, je ne pense pas que dans ce contexte, si on parle à une personne, Je ne pense pas qu'elle elle utiliserait ce mot de fatalité. Moi, je n'ai vu que des gens là-bas qui étaient habités d'une force, d'une vitalité renversante. Et c'est ça aussi qui fait que moi, là-bas, jeune, un peu ignorante, pas du tout affûtée politiquement, j'ai tenu dans ce chaos l'action le job qu'on me demandait de faire, parce que j'avais ces gens autour de moi et qu'ils n'étaient pas fatalistes, mais pas du tout. Ils étaient dans l'action et on allait chercher les enfants et on s'en occupait. Et il y avait de l'amour et il y avait de la joie et il y avait une force de vie incroyable. Donc, en fait, ce qui est fataliste, peut-être que c'est notre regard à nous. Et ça, c'est grave. Et c'est pas bien. Voilà, donc, cette fatalité, il faut ce regard fataliste, on ne doit pas nous l'entretenir. Parce que c'est injuste et c'est presque irrespectueux envers les gens qui vivent chaque jour et qui font chaque jour des gestes beaux et grands et courageux et forts et vivants. Et donc, non, fatalité, non, il n'y en a pas.
C'est également une question qui traverse votre roman, Mathieu. Est-ce que vous pensez qu'on soit prédestiné à tomber dans cette spirale de violence que vous évoquiez, mais aussi prédestiné, j'ai envie de dire, positivement, pour devenir éducateur, puisque l'éducateur qu'on suit a aussi un parcours qui fait qu'il l'est devenu?
Quand on arrive à la PJJ, en fait, dont le rôle est quand même de sortir de la délinquance des mineurs, on n'aborde pas tellement les faits commis au début. Il y a ce qu'on appelle une réunion de synthèse. Donc, quand je suis arrivé, je me suis assis dans ces réunions de synthèse. C'est chaque semaine, il y a un éducateur qui dit « Bon, moi, voilà, je vais vous faire un peu la synthèse de ce que je fais avec le gamin. » Donc, il s'appelle un tel. Son grand-père était un, et puis sa grand-mère, c'était elle. Voilà son histoire, et puis sa mère. Et donc, en fait, plutôt que de dire « Bon, il a braqué une banque ou il a braqué le bureau de poste à côté de chez lui ou l'épicerie à côté de chez lui », on commence à l'inverse en disant « Bon, de toute manière, s'il est là, c'est qu'il a fait une connerie. » Maintenant, il est le fils de qui ? Et le petit-fils de qui ? Et en fait, ce processus, je l'ai vécu du coup des dizaines de fois. Et à chaque fois, malheureusement, même si je n'ai pas envie de croire au déterminisme social, il y a une reproduction qu'on ne peut pas nier. Avec, malheureusement, la mère a subi un viol à l'âge de 15 ans. La petite, à 15 ans, a fugué de chez elle. Elle s'est faite agresser aussi dans un squat. Machin. Et bon, c'est pas toujours très, très drôle comme exercice, mais c'est vrai que ça saute aux yeux. Il y a quand même une reproduction. Et à l'inverse, du côté des éducateurs, même si ça tend à être modifié, puisque le métier d'éducateur PJJ... se professionnalise. Mon père, qui est rentré dans la PJJ dans les années 70, en 78, à l'époque, on ne vous demandait pas de diplôme. On vous demandait de ne pas avoir peur des enfants et d'être prêt à vous impliquer physiquement avec eux. C'est-à-dire d'être présent réellement sur le terrain et de pas avoir peur de franchir des lignes jaunes qui sont celles de la loi, mais qui, très concrètement, il y a un gamin qui vous appelle à 3 heures du matin parce qu'il est seul dans un squat au nord de Paris et que vous avez pour une heure de bagnole et vous avez un gamin de 4 ans qui dort dans sa chambre. Cette génération-là d'éducateurs, ils prenaient leur enfant de 4 ans, ils le mettaient enroulé dans sa couette, ils le mettaient sur la banquette arrière et ils roulaient une heure pour aller chercher le gosse. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai parce que il y a une nouvelle génération d'éducateurs qui... et une génération d'éducateurs qui passent le concours comme on passe un peu n'importe quel concours de la fonction publique. Et c'est vrai qu'il y a une implication qui est différente, mais pour en avoir beaucoup discuté avec des éducateurs qui arrivent presque à la retraite et qui du coup ont vu arriver plusieurs vagues de générations, on a eu en effet des gens qui devenaient éducateurs pas par hasard, parce qu'eux-mêmes avaient vécu des choses difficiles dans leur enfance ou avaient une certaine connaissance qui n'est pas du tout académique et quelque chose que vous apprenez pas dans les manuels, ce qui est une connaissance de la vraie vie, j'allais dire, et de la dureté de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'on ne fait pas ce métier par hasard, en fait. Quand on arrive, je pense que c'est vrai pour tous les métiers qui sont très humains et qui touchent au social. Mais bon, je vais prendre l'exemple de mon père, par exemple. Lui, quand je lui ai posé la question pour écrire ce livre, j'ai fait des interviews avec lui assez formelles en disant, bon, tu te mets là en face de moi et à partir du moment où j'appuie sur play, attention, tout ce que tu peux dire sera retenu contre toi. Et en fait, quand il déroule son expérience, il est resté presque une trentaine d'années quand même éducateur en foyer, donc il avait passé plein de gamins. Il me dit tout le temps, moi je suis arrivé là par hasard, j'avais besoin de trouver du boulot, j'ai ouvert France Soir, il y avait une annonce, ils recherchaient du monde, j'y suis allé, ils m'ont pris, et puis voilà, quoi. Et en fait, quand on creuse son histoire à lui, personnelle, c'est un enfant qui a été placé à la DAS, sa mère est venue le rechercher après des années un peu floues, dans lesquelles on ne lui a pas vraiment dit où il était. Il se souvient, il a de vagues flashs de grands dortoirs avec plein de gamins, mais il ne sait plus, pas trop où c'était et tout. Et on lui a fait croire que l'homme qui était à la maison était son père, et puis il a découvert bien après que ce n'était pas le cas. Bon, moi, il me raconte ça, c'est une histoire que je savais, mais il me raconte ça après mes 6 mois d'immersion, où quasiment à chaque fois qu'on ouvrait un dossier, il y avait une histoire de secret de famille, une histoire de paternité absente, de gros trous dans l'histoire familiale et un mal-être qui n'était pas résolu. Quand il me dit c'est complètement le hasard, j'ai beaucoup de mal à le croire. Parce que, en effet, il y a une espèce de lien qui n'est pas forcément conscient, mais qui existe. Donc, même si je n'ai pas envie d'y croire au déterminisme, à la reproduction, dans les deux cas, ça existe.
C'est une question qu'on peut aussi se poser à travers vous, Cécile. C'est cette volonté d'avoir choisi cette voie humanitaire. Est-ce qu'elle est née aussi d'une envie peut-être de réparer quelque chose? Et qu'est-ce qui, sur le terrain, vous a le plus révolté face à ces enfants qui, comme vous l'écrivez, sont otages de cette situation pourrie, otages d'adultes irresponsables et criminels?
Ce que vient de dire Mathieu, en fait, j'ai envie de rebondir dessus et c'est en lien avec la question que vous venez de me poser. Parce que, en fait, j'ai l'impression que y a le contexte, il y a l'histoire, il y a des choses, effectivement, qui sont presque prévisibles dans l'histoire individuelle. Et tout ce que tu viens d'évoquer, c'est énorme. C'est ce qui fait qu'à un moment, la vie d'un gosse, il part pas avec les mêmes chances qu'un autre, et il part avec toutes ces choses-là sur ses épaules qui vont le mettre dans une situation, mettre son avenir et ses chances en péril, en danger. Et ce qui va faire une différence potentiellement, c'est l'éducateur dont tu parlais, qui va prendre sa bagnole à 4h du matin, ou c'est les humanitaires qui vont se démerder ce jour-là pour être au bon endroit et sortir un gamin qui serait mort 2 jours plus tard. Donc, en fait, oui, il y a le contexte, il y a des formes de déterminisme qui pèsent sur nous tous, et sur certains plus lourds que sur d'autres. Et puis, il y a notre responsabilité individuelle à tous, à chaque instant de notre vie, de tendre la main ou de ne pas la tendre, et de tourner le regard ou d'affronter. Et pour en revenir à votre question, là, les enfants dont je parle, dans mon roman, ils étaient otages d'adultes criminels et irresponsables, oui. En fait, beaucoup d'enfants sont otages d'adultes criminels et irresponsables dans le monde tout le temps, dont ceux que tu évoques aussi. Mais il y a d'autres adultes, potentiellement, qui peuvent faire une différence. Moi, mes parents, par exemple, qui n'étaient pas militants, qui n'ont jamais conscientisé de manière politique ce qu'ils ont fait, mais ils m'ont appris tout ça. Ils ont ouvert leurs portes. Nous, on a été famille d'accueil. Mes parents, ils ont... Sans le politisé sans même le parler. C'était quelque chose de naturel. Donc mes parents, ils m'ont appris ça. En fait, on ouvre la porte, on ouvre son cœur, on ouvre la table. Puis c'est naturel, c'est normal. Et si on le fait pas, on se sent pas bien avec soi-même. Et ça, moi, je suis très reconnaissante de ce qu'ils m'ont apporté. Je tente de continuer de l'appliquer dans ma vie. Et je pense que ça, c'est notre liberté et notre responsabilité individuelle. Et parfois, c'est rien. Parfois, c'est rien. On le sait, on l'a tous peut-être vécu. Parfois, c'est rien du tout. C'est un tout petit geste qui ne va pas beaucoup nous coûter. On ne va même pas s'en rendre compte, des fois. Un mot, un geste. Et puis, 10 ans après, la personne va dire, mais tu ne te rends pas compte, tu ne te rappelles pas quand tu as fait ça, tu ne te rappelles pas le jour où tu m'as dit ça. Non, je ne me rappelle pas. Bah, cette personne-là, ce jour-là, ça lui a redonné, je ne sais pas, ce qui manquait à ce moment-là. Vraiment, parfois, c'est rien. Et toute la différence se fait là. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou si j'étais complètement à côté.
Ce qui peut faire la différence aussi, ce sont les mots. C'est vrai que les mots ont tendance à stigmatiser. Vous vouliez l'évoquer là tout à l'heure. Ce titre « Nafar » nous a tous, je pense, intrigués. On croit au début que c'est peut-être un prénom, une langue étrangère, quelque chose de poétique. Et il est justement très parlant quant à ce... pour contrebalancer ce terme de migrant et là aussi tous les clichés qui vont avec. Et vous-même, au contact de ces nafars, on va peut-être réexpliquer ce que c'est si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
C'est le moins qu'on puisse dire que les mots comptent, surtout quand on écrit, c'est quand même le principe. Outil et donc le principal outil de transformation du monde. Alors Nafar, en fait, c'est un mot arabe, un mot qui a changé de sens au fur et à mesure de son histoire. Étymologiquement, ça désigne un groupe de personnes, puis ça a voulu dire, ça a été un verbe aussi en arabe classique, quitter sa patrie pour aller vers une autre. J'ai appris que des mots qui signifiaient jaillir pour le sang d'une blessure ou l'eau d'une source étaient issus du mot nafar. Donc il y a quand même une idée de mouvement mais assez violent et fulgurant. Mais ce terme de nafar est utilisé en Arabie Saoudite essentiellement pour désigner les travailleurs immigrés venus d'Asie du Sud-Est, donc une population corvéable à merci et inférieure. Et quand j'étais à Istanbul, les passeurs utilisaient ce terme pour désigner leurs marchandises humaines, même si eux-mêmes étaient Syriens, par exemple, ou même si eux-mêmes étaient à un moment donné Nafar, et c'est quand même le terme qui était utilisé, probablement pas par tous, mais quand même, au point que les Nafar eux-mêmes ont fini par revendiquer ce terme. Je suis un Nafar pour dire je ne suis pas pleinement un être humain. Enfin, je ne suis pas considérée dans la situation dans laquelle je suis, de devoir traverser une frontière clandestinement, comme une personne, un être humain digne, un individu avec tout ce que ça implique à part entière. Et je suis un affaire. Et ce terme m'a servi à contourner, entre autres, les termes que je ne voulais pas utiliser pour désigner ce dont je parlais, donc migrants principalement, immigrés, exilés, réfugiés. On ne les trouve pas dans le livre parce que je me méfie de ces termes qui sont galvaudés, même s'ils ont un sens, ils ont un sens précis, d'un point de vue législatif ou d'un point de vue médiatique, mais... ils sont problématiques parce qu'on les utilise tout le temps et on les utilise parfois à mauvais escient. Migrant, bon, on pourrait se dire, ça veut dire quelqu'un qui est dans une situation de transition entre la Grèce et la Turquie et la Grèce, ou entre, je ne sais pas, la Libye et l'Italie, mais c'est pas... alors là, migrant, c'est comme si c'était l'essence des personnes qui sont comme enfermées par ce terme. Et nafar, c'est aussi le cas. Sauf qu'en utilisant le mot nafar, je dis voilà ce que je fais. Je colle une étiquette. Et cette étiquette-là est précisément réductrice. Et l'idée de ce roman, c'était de chercher, entre autres, qu'est-ce que ça fait d'être celui qui est dans cette prison de Naffar et qui est nommé, qui est pointé du doigt et défini par cette situation-là uniquement, celui d'être une marchandise entre les mains de passeurs contraints par des mesures européennes, par des gens qui ne connaissent pas exactement la situation ou qui la connaissent, mais en tout cas qui ne prennent pas en compte les destins individuels. Voilà. Et donc cette personne-là, je lui donne ce nom de Naffar, il me semble que j'ai dit tout ce que je voulais dire.
Par rapport à cette image de prison que vous utilisez, on la retrouve également dans le personnage de Wilfried, puisque lui aussi est dans une espèce de prison intérieure. On a beaucoup parlé de ce qui peut détruire les êtres, mais c'est aussi l'histoire d'une reconstruction. Comment est-ce qu'on peut se reconstruire quand on ne sait pas vraiment qui on est, d'où on vient, et qu'on a oublié aussi d'être un enfant à force d'être un survivant?
Je crois qu'on ne peut pas. Hein. Je crois que c'est tout le problème. Finalement, ce qui m'a étonné moi-même, alors que j'avais l'impression quand même de savoir de quoi je parlais en parlant de la délinquance des mineurs, justement, je me suis rendu compte que finalement, peu importe le territoire, que ce soit dans une cité ou en Bourgogne, parce que finalement, je suivais la PJJ d'Auxerre, on n'était pas non plus dans les quartiers sud de Chicago, quoi. C'était des villages parfois. Mais finalement, les jeunes, les mineurs sont les mêmes. C'est-à-dire que les problèmes sont les mêmes, et ils sont très simples, en général, à de rares exceptions près. Ils ont attrait justement à ces questions d'identité, de savoir questions qui vous pètent à la gueule à l'adolescence, de savoir qui je suis, qui sont mes parents, où sont-ils quand on ne les connaît pas, qui est mon père qui s'est barré avant ma naissance. C'est des questions finalement très banales, on les connaît tous et toutes. Et quand on n'a pas les réponses, on a beaucoup de mal justement à avancer sur ses deux jambes, quoi. Et donc j'ai pas moi non plus... J'ai pas moi non plus la recette magique pour faire d'un adolescent un adulte serein, qui sait qui il est et où il va. Mais j'ai l'impression que ces questions-là, quand même, sont centrales, parce que elles sont vraiment, c'est le dénominateur commun, on va dire, un certain mal-être. Moi, ce que j'ai vu avec ces gamins-là, c'est que c'était pas des délinquants, mais avant tout des enfants qui allaient mal. Et pour des raisons qui leur sont tout à fait propres, parfois ils n'en ont absolument pas conscience. Ils disent bah non, ça va, c'est juste que ouais, lâchez-moi, j'en ai marre de la PJJ, je veux juste vivre ma vie. Et dès qu'on creuse un peu et qu'en face l'enfant est suffisamment à l'écoute pour accepter qu'on creuse avec lui, il y a ces failles béantes dans l'histoire qui sont celles de la filiation, du secret de famille. Et ça, c'est finalement la délinquance, les faits, même parfois très graves. J'ai suivi des gamins qui étaient déjà avec des procès pour viol à l'âge de 14-15 ans sur le dos. On se dit qu'ils sont très, 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 très mal partis dans la vie, et c'est vrai. Mais finalement, ce n'est que l'expression d'un mal-être qui est très profond. Et c'est ce mal-être-là qui est intéressant, parce que c'est le seul levier sur lequel vous pouvez jouer pour, j'aime pas dire les sauver, mais c'est un peu ça l'idée, quoi.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez votre petit protagoniste, qui fait écho à tous ceux qui marchent pour leur vie, à tous ceux, et c'est aussi, j'ai envie de dire, ce qui réunit vos trois livres, dont la vie peut basculer à tout moment. On l'oublie trop souvent, parce que là aussi, ils sont tellement stigmatisés. Pourquoi est-ce que ce roman est aussi un cri de survie, et pourquoi là aussi ce ne sont pas juste des réfugiés, mais juste des humains?
Parce que les réfugiés sont des humains avant tout. Et du coup, ce que disait Mathilde tout à l'heure, c'est très juste. On utilise des termes comme le terme réfugié, comme le terme migrant, qui sont des termes, bizarrement, hein, parce que ça pourrait ne pas l'être, mais qui sont devenus des termes complètement déshumanisants. Donc c'est une masse de personnes, ça arrange tout le monde, parce que ça permet aussi d'être beaucoup moins touché par les situations individuelles. On jette les gens dans un grand panier. Là, hop, ça, c'est des réfugiés, ça, c'est des personnes, IDP, Internally Displaced People. Donc, ce n'est pas tout à fait des réfugiés. On rentre dans des discussions très techniques, très légales. Voilà, chacun a son panier dans lequel on le range. Et puis, ça permet de ne pas trop être touché. Enfin, en fait, ce sont des individus, ce sont des gens. C'est vous, c'est moi, c'est mon enfant, le vôtre. Donc, le fait de prendre l'histoire d'un enfant, comme tu l'as fait, avec un homme, c'est de mettre chaque lecteur devant l'humanité irréductible de cette personne et du coup de toutes les autres personnes qu'on a mis dans le même panier. Ce sont des individus et leurs émotions, leurs désirs, leurs aspirations sont les mêmes que les nôtres. Et quand on parle de l'enfance, je suis très touchée parce que dit Mathieu, et moi j'ai travaillé donc pendant plusieurs années quand je travaillais avec des ONG et avec l'UNICEF, dans ce qu'on, voilà, la protection de l'enfance, grand mot, grande phrase, si seulement on pouvait. Mais effectivement, c'est notre rôle à tous individuellement de protéger l'enfance, de protéger toutes les enfances. Et quand on faillit, je pense que c'est le pire crime, c'est notre pire faillite en tant que société et en tant que monde, faillir à protéger des enfants. Quand on voit, je ne sais pas, le corps d'un enfant qui a échoué sur une plage parce qu'on l'a laissé se noyer dans la Méditerranée, il n'y a même pas de... La honte, ce n'est même pas un mot qui a du sens. On est bien au-delà. Et on est tous individuellement responsables, je pense, de tous les enfants. Et pour moi, ce petit garçon, il incarne tous ces enfants que j'ai cherchés et ceux dont je m'en veux encore de ne pas avoir réussi à les sauver, parce qu'on sait très bien qu'il y en a des centaines, peut-être même des milliers, qu'on n'a pas pu aller chercher parce qu'il n'y avait pas de route, parce qu'on n'était pas assez nombreux, parce qu'il y avait la guerre, parce que le Zaïre, c'est un pays qui fait 2000 km pour le traverser dans la forêt vierge. Donc, il y avait plein d'enfants de partout. Il y en a qui sont morts, il y en a qui vivent encore dans des villages où ils ont été recueillis par des gens, par des villageois super pauvres et complètement pas concernés par tout ce qui se passait, mais qui ont quand même recueilli les enfants parce qu'on ne laisse pas mourir un enfant de faim devant sa porte, même quand soi-même on n'a rien à manger. Et donc tous ces enfants-là, il y en a peut-être qui vivent encore dans un village au fin fond de la RDC en ignorant d'où ils viennent, en ignorant comment ils sont arrivés là. Leurs droits ne seront jamais mis en application, ils n'auront pas de nationalité, ils n'auront aucun droit sur rien. Tous ces enfants-là, on a failli auprès d'eux. Alors moi, j'essaye de ne pas porter non plus une responsabilité écrasante, hein, parce que je ne suis pas personnellement responsable de cette faillite, mais je dois dire que j'ai peut-être pas, je m'en rends compte en vous en parlant, peut-être pas réglé complètement le problème de la motivation qu'on peut avoir quand on est humanitaire et de ce problème de se sentir concerné et peut-être responsable de choses dont on n'est pas vraiment responsable et à quel point on dit, bah voilà, j'ai fait ma part du job, à quel moment on accepte aussi de poser ce fardeau et de dire j'ai fait ce que je pouvais puis j'ai pas pu faire plus. Mais je n'ai pas la réponse et finalement, je m'en rends compte en vous le disant, je ne suis pas certaine d'avoir réglé la question en moi.
Votre héroïne, Mathilde, elle n'a pas toutes les réponses non plus. Et contrairement au personnage décrit ici dans les deux romans, votre héros sait parfaitement d'où il vient. Mais il le dit à un moment donné, je ne suis plus le même homme. Il y a un homme avant la guerre, il y a un homme après la guerre. Il y a cet homme qui devient, malgré lui, ce nafar. Et il y a aussi continuellement dans ce roman cette envie de sauver. Et cette question, est-ce que l'amour peut sauver ces êtres-là, cet homme-là?
Il y a quelque chose qui m'avait interpellée dans ta question à laquelle je voulais répondre avant. Mais il y a, comme tu l'as dit, ce lien entre une narratrice, une femme qui aborde le récit de ce qu'a vécu l'homme qu'elle aime, En tout cas, ici, dans le récit, c'est, comment dire, l'amour, on va dire ça, ce mot-là, ce gros mot-là, est le, comment dire, là, je sais pas, la pierre angulaire ou ce qui vraiment fait naître le récit. Après, est-ce que ça sauve la personne ou est-ce que forcément ça... Ça ouvre des portes, ça aide, ça pousse en dehors du grand mal et du grand mal-être, mais ça n'apporte pas toutes les solutions. Mais par contre, si je peux revenir au roman, puisque c'est quand même ça dont il est question, c'est bien l'amour qui motive l'écriture là aussi. Bon, on a parlé tout à l'heure du sentiment d'injustice. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va écrire pour dénoncer? En disant ce monde-là, cette réalité-là, qui me révolte, je veux essayer de la transformer. Mais ici aussi, le sentiment amoureux, ou en tout cas l'affection très très forte qu'on porte pour quelqu'un, motive aussi l'envie d'écrire, d'aborder ce sujet. Et la particularité de ce récit, c'est que ce lien-là, ce dispositif, est décrit dans le livre, puisque la narratrice cherche à comprendre ce que le Nafar, qui est son compagnon, a vécu. Et c'est bien parce que c'est son compagnon qu'elle cherche à découvrir qu'il a vécu. C'est bien parce que c'est son compagnon qu'elle va écrire tout ça et que finalement, ça sera livré à des lecteurs. Donc voilà, et c'était très important pour moi que ce dispositif-là soit décrit et que ça ait tout son sens, en fait. Je ne me positionne pas n'importe où, je me positionne en tant que amoureuse, en tout cas très très proche d'un homme exilé, et c'est pour ça que je livre ce récit.
Même s'il ne s'agit pas d'un lien amoureux que vous avez eu, vous, au sein de cette immersion que vous avez vécue pendant plusieurs mois, on sent aussi cette profonde implication, cette profonde empathie que vous avez pu avoir pour tous ces êtres rencontrés. Une expérience comme celle-là, j'imagine qu'on n'en sort pas complètement indemne, Mathieu. Qu'est-ce que vous diriez que vous avez appris à la fois sur vous-même et peut-être aussi sur la nature humaine ?
Vaste question. Est-ce que j'ai appris quelque chose sur la nature humaine ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on fait de l'immersion comme ça, il y a un moment où on ne maîtrise plus, en fait. Quand on est journaliste, on est censé un peu... pas vraiment s'impliquer, mais il y a cette espèce de mythe de l'objectivité du journaliste ou de la neutralité du journaliste, mythe auquel je ne crois absolument pas. On vient avec son propre passé, sa personnalité, on parle forcément de quelque part. Donc ça, j'y ai jamais cru, mais c'est vrai que plus on passe de temps avec les gens, plus la frontière s'efface. Et moi, plus j'ai passé de temps avec ces gamins, moins j'étais journaliste et plus j'étais moi aussi un enfant de 14 ans. Et c'est particulièrement vrai parce que dans le livre, il y a tout un passage qui est assez. Qui ressemble un peu à une sorte de grande colonie de vacances où tous ces gamins qui sont là parce qu'ils ont fait des conneries, qui sont pris en charge par la PJJ, sont inscrits à une espèce de. Quelque chose qui existe vraiment, hein, que je les ai accompagnés là-dessus, qui s'appelle le Challenge Michelet, qui ressemble à une sorte de Jeux Olympiques de la délinquance où chaque année, on les réunit dans une ville. Alors, en l'occurrence, moi, c'était à Rennes. Et on leur fait passer des épreuves sportives. Donc, il y a 100 mètres, 200 mètres, 100 en longueur, 100 en hauteur. Il y a un tournoi de football, il y a de l'escalade, de la natation. Enfin, c'est les Jeux Olympiques. Et pour que ça ait un peu de poids, chaque équipe représente sa propre académie. Donc, moi, j'étais avec... Bourgogne-Franche-Comté, on avait On avait un survêtement comme aux Jeux Olympiques, comme si on représentait l'équipe de France. Donc, on avait le survêtement marqué région Grand Centre, tu vois, dans le dos. Et donc, j'étais avec eux. Moi, je joue au foot. J'ai joué à un plutôt niveau pas dégueu. Donc, je les encourageais, je les entraînais. J'étais là, au bord du terrain, presque comme si c'était mon petit frère qui était sur le terrain, quoi. Et forcément, on dormait dans une espèce de collège qu'on nous avait prêté pour l'occasion. On passait tous nos repas ensemble. Quand il y avait deux gamins qui s'engueulaient, j'intervenais parfois pour les séparer. Enfin, je me suis rendu compte, finalement, que j'avais outrepassé mon rôle de journaliste. Mais ça y est, c'était trop tard pour revenir en arrière. Et d'ailleurs, les gamins eux-mêmes, ils me disaient « Mais toi, t'es pas journaliste. » Déjà parce que j'avais pas de caméra, et ça les gênait vachement, parce que pour eux, un journaliste, c'est forcément quelqu'un qui passe à la télé. Et ensuite, ils se disaient, mais il est bizarre, lui. Enfin, qu'est-ce qu'il fout là encore avec nous, quoi. Et forcément, après, il y a un moment où ça s'arrête, où le jogging, il faut le ranger dans le placard, et ces gamins, on s'est séparés sur une aire d'autoroute. C'est, on dirait, une chanson de Michel Fugain, mais c'est vrai. À un moment, j'avais ma voiture qui était garée au bord du péage et le bus s'est arrêté, je suis descendu. Ils sont descendus aussi et ils ont chanté une chanson qu'ils avaient préparée pour me dire au revoir. Et après, non, c'était un petit peu plus énergique que ça. Mais du coup, il y a un moment où ça s'arrête, où eux, ils remontent dans le bus. Moi, je monte dans ma voiture que j'avais laissée là depuis 10 jours. Et il me restait 2 heures pour remonter chez moi à Paris. Et c'est vrai que c'est 2 heures où on n'allume pas comme ça la musique et on se met à parler d'autre chose, quoi. C'est vrai que j'étais très triste. J'ai ouvert les fenêtres et j'ai fait ces 2 heures un peu pour rentrer chez moi comme on traverse un sas de décompression. Parce que après, c'est forcément plus dur. Quand on passe autant de temps avec les gens, on ne peut pas garder de la distance. Il y a forcément des relations qui se créent. Moi, c'était bien entendu pas des relations amoureuses, mais c'était des relations quand même très fortes. Et il m'est arrivé un truc, et après j'arrête de parler parce que je suis tout le temps trop long, mais quand le livre a existé, ces gamins, ils étaient plus suivis forcément par la PJJ. J'avais vachement de difficultés à les retrouver, encore sur cette histoire de droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'après, ils font leur vie, ils sont plus suivis forcément par la justice, ils ont payé leur dette à la société, et j'arrivais plus à les retrouver, et j'ai eu une chance incroyable. C'est que notamment un des gamins qui a un rôle dans le livre, qui n'est pas Wilfried, parce que Wilfried, je pouvais le retrouver facilement, mais un des gamins qui a un rôle dans le livre, le jour où j'ai été à la maison d'édition et où j'ai eu les livres, je me suis retrouvé dans le métro comme ça, à lire le bouquin que je n'avais pas eu entre les mains depuis très longtemps, et j'entends sa voix, ce gamin, qui s'appelle Almami, et il est à 2 mètres de moi dans le métro, avec un pote à lui, et j'ai eu l'impression de voir un mirage, quoi. Et je lui ai dit, mais Almami, mais tiens, regarde, tu vois, j'étais un vrai journaliste, regarde, j'ai un livre, il y a ton histoire dedans, tu t'appelles pas Almami, mais regarde, tu t'appelles Alassane, t'es dans le livre, tu pourras te lire et tout machin. Et son pote à côté était disait, mais toi, Almami, toi, t'as jamais lu un livre de ta vie, t'es dans un livre, toi. Et voilà, ça, c'est des petits moments qui sont tout petits, hein, mais quand je l'ai vu descendre à la station d'après avec son livre dans la main, j'étais ému. Parce que c'était quand même quelqu'un avec qui j'avais passé du temps, quoi.
Bien sûr. Alors, dernière question, elle est pour vous, Cécile. C'est aussi un roman plein de vie, comme vous le disiez, plein d'espoir également. Et il y a cette phrase, à un moment donné, il me faut croire en leur avenir, en l'avenir donc, de ces enfants. Chacun d'entre eux mérite l'espoir et la confiance. En quoi est-ce que vous, malgré toutes les horreurs auxquelles vous avez été confrontés, vous gardez l'espoir à la fois pour ces enfants, mais peut-être aussi pour l'humanité?
Vous avez le secret des vastes questions qui sont très déstabilisantes et auxquelles il est difficile de répondre. Hein. Mais merci pour la question. Et ouais, moi j'ai toujours gardé confiance et je sais pas expliquer pourquoi. Mais je n'ai jamais perdu la confiance malgré tout ce qui se passe en ce moment, qui est plutôt démoralisant. Mais non, je ne sais pas. J'ai toujours gardé confiance parce que l'étincelle existe en fait en chacun de nous. Et puis parce que c'est à nous de la faire exister, c'est à nous de la faire vivre. Et toujours, j'en reviens à notre rôle d'adulte envers les enfants. C'est à nous de la transmettre. Les mots de Mathieu tout à l'heure résonnaient très fort en moi parce que moi, je suis maman d'une adolescente. Et il y a des trous dans son histoire pour des raisons qui... Il y a des trous et donc ça résonne très fort ce qu'il disait. Et je pense que une partie de la solution, une partie du coussin amortisseur, on va dire, c'est l'amour, ouais, c'est ce grand mot. C'est l'amour, c'est l'écoute, c'est la disponibilité permanente qu'on peut avoir envers un enfant, le sien ou un autre hein, d'ailleurs, qui fait que à tout moment. Quand ça vacille pour cet enfant, quand il y a cette souffrance qui monte de régions complètement inconnues, incomprises et non conscientisées, y a un adulte un peu pilier, empathique, bon, je ne sais pas, gentil, c'est un mot un peu désuet, ça tombe en désuétude la gentillesse. Et c'est dommage, parce que être gentil, c'est essentiel. Alors, la petite étincelle existe. Et moi, je garde toujours espoir parce que là où je vais, comme aujourd'hui, voilà, je vois des regards de gens tolérants, intéressés, qui se sont levés un dimanche matin où il fait dégueulasse pour venir être ici.
Ah non, là, il fait beau.
Il fait un temps affreux et vous êtes là et on partage quelque chose. Donc, moi, je ne suis pas désespérée.